écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
fois, après l'horrible nouvelle, j'ai été prise de remords pour le petit blessé. J'ai voulu réparer ce que j'avais fait et donner ce que je n'avais pas voulu donner au père du petit à son fils. La mère lui dit, en me déshéritant à mon tour, elle lui dit, de ton vivant, je t'ai donné de bonnes sommes, mais je sais que tu veux le pouvoir, mais là, non. Il lui dit, mais tu veux le donner à celui qui n'est pas normal. Elle lui dit, tu te trompes, il a beaucoup changé et mûri. Il a de très bonnes notes dans ses études, et puis il m'aime. Il lui dit, peut-être pas pour longtemps, en lui montrant la lettre. Et lui dit, nous sommes tous perdus. Si tu envoies ça aux médias, il faut les intercepter et les éliminer. Il la quitte sans rien dire. Quand il est parti, Jeanne se dit qu'elle a dit la vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Oui, elle lui a dit la vérité. Oui, ce n'est pas son mari qu'elle voulait tuer en trafiquant la voiture, mais bien son fils. Malheureusement, elle ne savait pas qu'ils allaient partir avec le petit. Elle croyait qu'ils allaient faire comme d'habitude lorsqu'ils partaient pour un long voyage, de lui laisser. Mais les parents sont partis tous les trois et ont eu l'accident. Alors elle en a eu de remords pour le petit. Elle a voulu réparer. Oui, elle a voulu réparer. Si mon fils n'avait pas voulu me faire chanter pour dénoncer son père en disant qu'il avait de mauvaises fréquentations, des fréquentations occultes, pas très républicaines, et qui aurait risqué de ruiner la famille, je n'aurais pas fait ça. J'étais obligé de le faire pour défendre les biens de la famille et me défendre moi-même. Je ne pouvais pas faire autrement. David vient la voir. Il lui dit qu'il a reçu une lettre et lui dit, vous ne devez pas vous en occuper. Il lui dit, mais si l'on apprend des choses pareilles, c'est la fin de notre union. On va penser que ce dont on vous accuse, moi aussi, je peux faire partie de tout ça. Pourtant, j'ai jamais fait de politique. Elle lui dit, ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. La mère de la jeune fille, qui l'a fait revenir parce qu'elle se sentait seule, puis elle a réfléchi, a pensé que les relations de sa fille avec Adrien pouvaient être intéressantes. Mais elle aussi a reçu une lettre. Alors elle dit à sa fille de ne plus revoir Adrien. La jeune fille lui demande, pourquoi ? Sa mère lui dit, parce que ce ne sont pas des gens bien. J'ai appris des choses sur eux. La jeune fille le dit à Adrien à la sortie des cours. Adrien lui dit, je te jure qu'il n'y a rien à nous reprocher. C'est sûrement une personne qui veut nous nuire, qui envoie ses calomnies aux gens par courrier. Ne t'en fais pas, ne t'en occupe pas. Adrien le dit à sa grand-mère. Il lui dit, Corbeau envoie des lettres de partout. Ça risque d'être la curie. De nombreuses personnes reçoivent des lettres qui disent toujours la même chose. Mais pas encore les médias. Pour l'été et soirée de Jean, parce que Jean, malgré ses faiblesses, continue à recevoir des personnes et sa vie mondaine continue pour donner le change, quelques personnes se posent des questions et se décommandent. Il y a tout de même de nombreuses personnes, et les personnes qui sont décommandées sont remplacées par d'autres curieux pour savoir comment elles se comportent. On lui pose des questions sur ses lettres, on la congratule en riant. Elle ne dit rien, elle pense qu'il y a moins d'une semaine, ils étaient tous à ses pieds. Une femme grosse, grande, rousse, le regard dur, avec une robe longue crevette. La personne à qui elle a parlé est une femme blonde, mince, une robe noire. Donc la grosse dit à l'autre, « Ça sent la femme règne !» L'autre lui dit, « En tout cas, ça ne peut pas être le début du nouveau. » L'autre lui demande irrité, « Et pourquoi ?» L'autre lui dit, « On connaît bien vos origines. » La grosse lui dit, « Elles sont comme tout le monde, issues d'Adam et Ève. » Adrien va voir Jeanne pour lui dire qu'elle ne peut plus s'occuper de la société. Elle est sur le devant de la scène avec une histoire pareille. Cela risque d'être dangereux pour les actionnaires qui risquent de nous lâcher. Elle lui dit, je tiendrai toujours les rênes jusqu'à ma mort. Elle se demande s'il lui veut du mal. Elle se demande si Albert lui veut du mal. Elle veut savoir et demande au domestique de surveiller la boîte aux lettres et de prendre la personne. Un domestique voit un garçon d'à peu près 14 ans, grand, maigre, blond, le visage osseux, habillé en loques, déposé dans la boîte aux lettres. Vite ! Il sort de la propriété, et avant que le garçon ait le temps de quitter la rue, il l'attrape par le bras. Le garçon lui demande, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le domestique lui dit, « Ma maîtresse désire te parler. » Le domestique lui dit, « J'ai rien à lui dire, je la connais pas. » Le domestique lui dit, « Tu vas tout de même venir avec moi. » Et le pauvre garçon qui est bien nu est mené à Jean qui se trouve au petit salon. Il est ému de se trouver dans un endroit pareil. De voir cette femme bien mise, qui a l'air d'une reine, Jean lui demande, la lettre que tu as mise dans la boîte aux lettres, qui t'a demandé de la mettre? Garçon Émile lui dit, c'est simple, un homme était dans une voiture noire, il s'est arrêté face à moi, il m'a dit de mettre la lettre dans cette boîte aux lettres, il m'a donné une petite pièce, pour ça et rien d'autre. Jean lui demande. Et comment était cette personne? Je ne sais pas. Il était dans la voiture, je sais qu'il avait un costume noir. Jean lui demande encore. Tu peux rien dire d'autre? Le garçon lui dit. Pauvre garçon, lui dit. Non, madame. Elle lui dit. Écoute, petit. Si on te donne encore une lettre pour moi, Tu feras très attention de bien voir la personne qui te donne cette lettre pour me dire comment elle est. Tu auras une très bonne somme. Tu as compris ? Le garçon lui dit. Oui, madame. Elle lui dit. Tu es un très gentil garçon. Elle s'avance vers lui et lui donne un billet. Elle dit au domestique, amenez-le à la cuisine et donnez-lui quelque chose à manger. Il est mené à la cuisine tout heureux. Jean se dit qu'il fait déposer les lettres par des inconnus pour pas être pris. Puis, elle va voir le garçon à la cuisine. Là, elle le voit, il est déjà à table en train de manger du pain et du saucisson. Elle lui dit, j'ai oublié de te demander quelque chose. Peux-tu me dire comment était la voiture ? Le garçon lui dit, c'était une grande voiture, toute noire, avec des vitres qui étaient noires aussi. On ne pouvait pas voir de l'intérieur, une vieille voiture. Jean lui dit, je te remercie, mon petit. Malheureusement, les jeunes qui déposent les lettres ne sont jamais les mêmes. Et chaque fois, on leur demande comment était la voiture, ce n'est jamais la même. Un jour, elle reçoit une lettre où est écrit qu'elle cherche quelle est la personne qui écrit ces lettres et pourtant, elle la connaît bien et même très bien. Elle se demande qui c'est. Un domestique, sa belle-fille, David, son fils, elle ne voit pas, mais elle reste sous ses gardes, peut-être un ami. Alors elle reçoit beaucoup pour essayer de se torcher, voir qui peut être, qui ça peut être, mais rien. Ses amis ont tellement l'air stupides. Lui aussi, Adrien aimerait bien savoir pourquoi on accuse sa belle-mère, sa grand-mère, du crime de ses parents. C'est tellement horrible. La jeune fille lui dit, je regarderai sur Internet les informations pour l'accident. Adrien aussi va voir sur Internet en cachette de Jean dans sa chambre. Là, il regarde et trouve dans les journaux de l'époque des articles sur les accidents. Il voit un article sur l'accident de ses parents où il est dit que c'était un accident terrible. Les corps ont été brûlés, calcinés. La voiture complètement calcinée. Le bébé qui était dans la voiture avec ses parents a été défenestré de la voiture et projeté plus loin par une explosion très puissante. Malheureusement, parce que le petit aurait été calciné dans la voiture, heureusement, parce que le petit aurait été calciné dans la voiture, comme ses parents. Par miracle, le bébé, en étant éjecté de la voiture, plus loin, n'est pas mort. On ne sait pas pourquoi la voiture a explosé. Cette série de voitures Renault avait un gros ennui de fabrication de moteurs. La voiture était fabriquée à la chaîne en Chine. Après cet accident, on était obligé de retirer cette série de la vente. D'ailleurs, la responsabilité de l'accident a été donnée au constructeur qui a payé une forte somme. un peu plus loin. Voit qu'il y a un autre article qui dit que le bébé se rétablit et qu'il risque d'avoir de fortes séquelles au cerveau, mais que l'on pourra en savoir plus que l'enfant grandira. Et qu'il est chez sa grand-mère, Madame Forvigny, la présidente générale du groupe des produits de beauté. Adrien se dit qu'il n'y a rien contre sa grand-mère. Bien au contraire, elle a bien agi avec lui. Ce sont des calomnies pour la nuire. Il ferme son ordinateur. Oui, c'est des calomnies. Il le dit à la jeune fille. J'ai lu tous les articles. Il n'y a rien contre ma grand-mère. Bien au contraire. Elle a bien agi en me prenant avec elle. Ce sont des calomnies. La jeune fille dit à sa mère, et sa mère lui dit, « Il n'y a pas de fumée sans feu !» Comme il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent des lettres, la chose devient publique, et même certains médias en ont reçu. Les boutiques des grands magasins qui vendent des produits Forvigny reçoivent aussi des lettres. Les médias se demandent s'ils doivent en parler, parce qu'ils risquent c'est de se faire supprimer la pub qui est très nombreuse sur les produits Forvigny. Comme le groupe de presse ont des magasins féminins, comme les groupes de presse ont des magasins féminins, ils se disent que ça risque d'être dangereux de parler de cette affaire. Mais si l'on n'en parle pas et que les autres en parlent, il y aura du manque à en gagner. Alors on décide d'en parler que dans les journaux d'actualité d'une façon discrète. Mais attention, rien dans les magazines féminins. Les magazines féminins appartiennent au groupe de ces journaux. Ce qui fait que dans la presse, l'on parle des lettres et du bruit qui court et se pose la question, est-ce vraiment un accident qui a provoqué la mort du fils de Madame Forvigny? Ceci est mis en première page des journaux avec la photographie de Jeanne et la voiture calcinée et à quelques groupes politiques appartenaient le mari de Jeanne. On pose aussi cette question. L'on veut interroger Jeanne, mais elle refuse. Le téléphone sonne. On sonne à la porte. On demande par courrier des rendez-vous. Elle reste muette. Muette. Alors on veut interroger Adrien. On a trouvé son lycée. À la sortie du lycée, les journalistes, c'est la cohue. Adrien réussit à se faufiler et à partir en courant. Le proviseur du lycée sort et dit aux journalistes, « Faites attention, cette personne est considérée comme mineure. » Adrien est rattrapé par le chauffeur qui le fait entrer dans la voiture pour être venu chez Jeanne. Malheureusement, le lendemain, on voit dans les journaux Adrien, le visage flou, entouré de journalistes. Jeanne est furieuse, Adrien aussi, qui lui dit « J'irai pas au lycée pour le moment. » Il prévient la jeune fille. Les photographes entrent dans la propriété. Jeanne fait intervenir la police. Une lettre envoyé aux médias dit qu'il y a une loi pour les pauvres et une pour les riches, et il faut qu'elle soit jugée. Le ministre de l'Intérieur se demande ce que c'est que ce bruit et se dit « Comme si je n'avais pas autre chose à m'occuper avec la peste, cela suffit !» demande à un de ses collègues d'aller interroger discrètement Jean. C'est un jeune homme, un jeune loup plutôt dans les 25 ans, grand, mince, visage sympathique, habillé d'un costume gris. Elle a été prévenue, cela la gêne, mais comme c'est le ministre de l'Intérieur qui l'envoie, elle ne peut refuser de le recevoir. Elle reçoit dans son salon. Après l'avoir fait asseoir, elle s'est assise en face de lui et lui dit « C'est pour me déstabiliser et prendre ma place dans le groupe. » Le jeune homme lui demande « Savez-vous qui ça peut être ?» Elle lui répond « Non, malheureusement, je ne sais. » Il demande aussi « Et cette histoire d'accident ?» Elle lui dit « C'est une horrible calomnie. Comment ose-t-on m'accuser, moi, la mère, assassiner son fils et sa belle-fille ? Comme le monde sait qu'à l'époque, il y a eu une enquête et on a dit que c'était un accident. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un meurtre. Mais que faire ?» Le jeune homme lui dit « Il faut envoyer aux médias un démenti, ensuite porter plainte contre ceux qui lancent ces calomnies, madame. » Elle lui dit « Vous avez sans doute raison, monsieur. C'est ce que je vais faire. Merci. » Et c'est ce qu'elle fait. Malheureusement, ça ne sert à rien pour les médias, et parce que ça se vend mieux et que c'est mieux une affaire de meurtre familiale qu'une affaire de calomnie. Donc, les attaques continuent. Le président de l'Intérieur est chez le président de la République dans son bureau. Le président de la République lui dit « Il faut étouffer cette affaire qui risque de venir jusqu'à nous. Nous aurons des ennuis, vu qu'elle nous a donné une grosse somme en dessous de table. Parce que s'il y a une enquête dans la famille Forvigny, ils vont regarder les comptes aussi, et vont sûrement voir la sortie de cette somme. Et très vite, un journaliste un peu malin arrivera jusqu'à nous. Ça risque de faire des vagues, et l'opposition risque d'en profiter. Il faut retrouver le corbeau et voir l'entourage de Jeanne. Mais ceci d'une façon très discrète. Plutôt que les médias ne sachent pas que nous faisons l'enquête dans cette affaire, car ils risqueraient de se poser des questions. Il ne faut pas oublier que les médias sont tous dans l'opposition, c'est-à-dire de gauche. L'on fait une enquête discrète en mettant sur écoute la famille, en surveillant les allées et venues et en posant des questions domestiques de façon très discrète. On va interviewer le fils en disant que l'on est journaliste américain d'un grand journal qui cherche à faire un article sur les grandes familles françaises. Et on pose des questions plus ou moins indiscrètes sans qu'Albert s'en aperçoive. Au cours de cette enquête, on s'aperçoit que le fils ne peut pas attaquer sa mère étant donné qu'elle risquerait, c'est encore de diminuer son héritage pour lui, donc il risquerait gros. Quant à sa femme, c'est la même chose. Quoi que l'on apprend, que le fils et sa femme n'aiment pas tellement Jeanne. Quant au petit-fils qui vit chez Jeanne, étant jeune homme, il a eu des jeunes hommes, disons, même jeune adolescent, très jeune adolescent, il a eu des difficultés psychologiques lorsqu'il était enfant et adolescent. Et d'après les domestiques, il est très attaché à Jeanne. Mais dans l'entourage de Jeanne, il y a ce fameux David Zibouman, personnage trouble, gigolo, sans profession. L'on fait une enquête approfondie sur sa vie. En regardant ses origines et en allant voir les personnes qu'il a fréquentées, l'on voit qu'il fréquente de très vieilles femmes, très riches, vivant seul et s'ennuyant. Lui les fait sortir en leur faisant connaître les arts nouveaux, etc. Malheureusement, il leur demande énormément d'argent et devenait très, très violent avec elles si elles refusaient de ce qu'il demandait. Lorsque ces femmes avaient des difficultés financières, il les laissait tomber. Alors on regarde son compte, on voit qu'il a créé des sociétés immobilières à son nom, qu'il a plusieurs propriétés et même immeubles entiers dans Paris, qu'il y a aussi une île dans le Pacifique. On fouille dans ses comptes grâce à sa banque et l'on voit que tout est payé par Jeanne et que rien n'est à elle. Ensuite, on voit que Jeanne a donné 1 milliard en plus de tout ce qu'elle a mis dans cette société. Cela paraît louche. C'est peut-être lui qui fait chanter Jeanne parce que Jeanne ne veut plus lui donner d'argent. Ce n'est pas le même service qui apprend tout ça, bien entendu. Service des finances et la police le savent déjà, mais pas le service du Premier ministre. Alors on décide, c'est de ne pas mettre des gants pour cet aventurier détrousseur de femmes. On le convoque au quai des Orfèvres pour lui poser des questions. David s'est surpris de recevoir une convocation du quai des Orfèvres. Mais malheureusement, il est obligé d'y aller, puisqu'il se dit que c'est officiel. Et puis il se dit, nous verrons bien. Là, il est mené chez le commissaire. Il est dans une pièce petite, sombre, avec aux fenêtres des barreaux. Elle est meublée 1930. Le commissaire est un homme grand, mince, cheveux grisonnants, dans les 60 ans, et habillé en costume noir. Une fois qu'il les fait asseoir, le commissaire lui demande « Savez-vous pourquoi on vous a fait venir, monsieur ?» David lui dit « Non, monsieur. » Booth lui dit « Monsieur le commissaire, s'il vous plaît. » On vous a fait venir, c'est pour vous poser quelques questions au sujet de vos relations que vous avez avec Madame Jeanne Forvigny et d'autres personnes très fortunées. David lui répond, ce n'est qu'une amie, rien d'autre. Le commissaire lui demande, comment vous vivez-vous? David lui répond, je m'occupe d'affaires dans l'immobilier. Le commissaire demande, pourquoi Madame Jeanne Forvigny vous donne tant d'argent? David lui dit, parce qu'elle m'aime bien et que je la fais rire. Le commissaire lui demande, et pour les autres, nous sommes renseignés. Vous étiez un peu violent avec elle. David lui dit, il faut bien secouer les personnes du sexe pour qu'elles fassent quelque chose. Le commissaire lui demande, quel intérêt a Jeanne Forvigny à vous donner tant d'argent? David lui dit, c'est pour payer moins d'impôts. Pour le fixe, et puis elle croit à mon avenir. Le commissaire lui dit, bien, pour le moment je vous laisse partir, mais c'est pas fini. Nous allons examiner toutes vos factures et vos comptes. Alors faites attention, faites très attention. David se plaint à Jeanne. Tu te rends compte? L'on me surveille et l'on pense que je te fais chanter pour que tu me donnes de l'argent. Il faut que tu arrêtes ça. Jeanne lui dit, ne t'en fais pas. Alors, elle téléphone au ministre de l'Intérieur. Elle lui dit, « Je vous demande, c'est de laisser David Zibouman tranquille. C'est un ami intime pour moi. » Le ministre lui dit, « Malheureusement, madame, cette affaire est devenue politique, publique. On est obligé, c'est de faire quelque chose. Autrement, l'opposition dira qu'on ne fait rien, parce que vous êtes la femme la plus riche de France. » Elle lui dit furieuse, « On risque de trouver que l'on ne voudra pas que l'on trouve. » Il lui dit, « Ne vous en faites pas, je surveille. » Elle lui dit, « Si vos fonctionnaires trouvaient quelque chose, vous ne pourrez rien faire, parce qu'ils diraient que vous avez forcé à cacher certaines choses. » Il lui dit, « Pas de souci, madame, mais l'on continue l'enquête qui est mise en route. » Et sans changer, ce sont des choses qui intéressent le public. Vous pensez, un grand ami d'une riche héritière qui lui donne plusieurs milliards, c'est comme si c'était son amant. Les gens vont avoir de quoi s'occuper et personne ne demandera une vraie enquête. Elle lui dit furieuse, « Mais je risque d'être déshonoré et ma vie bafouée. » Il lui dit, « Mais non, on trouvera très bien qu'une vieille femme est pour amant un jeune qui pourrait être son petit-fils. Les féministes, droits de la femme, etc. vont être de votre côté et l'on dira que vous avez bien le droit de dépenser votre argent comme vous le voulez, surtout que vous avez donné leur part d'héritage à vos héritiers. Vous allez symboliser une femme libre. Toutes les femmes de votre âge vont vous envier de pouvoir faire ça, avoir un amant que l'on a le droit d'aimer à n'importe quel âge et faire des folies pour la personne que l'on aime, etc., etc. » Elle lui dit, « Mais c'est faux tout ça. Je n'ai pas d'amant. » Le ministre lui dit, « Qu'importe, on va le croire. Et ça va vous donner une bonne réputation et vous faire la publicité pour vos produits. Vous pourrez même inventer un nouveau produit pour les femmes de votre âge, pour qu'elles puissent séduire les jeunes hommes. » C'est ce qui se passe dans les médias populaires. Les gens se passionnent pour cette femme qui est tombée amoureuse et qui comble de cadeaux ce jeune homme, surtout une femme de cet âge. On compatit pour elle et trouve qu'elle a raison de dépenser son argent comme elle veut, surtout qu'elle ne déshonore pas sa famille. Mais malheureusement, certains journaux gauchistes, il y en a énormément, en cherchant bien dans l'histoire de la famille, trouvent le passé trouble du mari de Jeanne et se demandent si cette histoire ne cache pas autre chose. Les femmes qui ont connu David parlent aux médias et sont reçues dans tous les plateaux télévisés, dans les radios, et reçoivent les journalistes pour les journaux. Elles sont toutes heureuses d'être sur le devant de la scène et font tout pour être le mieux possible. Ça intéresse énormément de gens qu'elles parlent de la violence de David et de ses besoins d'argent. Désormais, les gens plaignent ces pauvres femmes milliardaires qui sont seules, s'ennuient, sont obligées pour se distraire de se payer chèrement un gigolo. Ah, les pauvres femmes milliardaires, nous les femmes modestes n'avons pas à nous payer des gigolos. Les jeunes viennent à nous simplement. Mais les pauvres femmes, etc., etc. Mais les gauchistes, aidés par les journaux gauchistes, bien entendu, manifestent pour demander l'égalité des peines et pas de privilèges pour la loi et que la loi soit pour tous. Certains profitent pour aller à ces manifestations et demander la vérité de cette famille Forbini qui a un passé très trouble. Cette affaire devient une affaire politique. Les lettres continuent et parlent des idées politiques du mari, de Jeanne et d'une certaine caisse noire qui sert pour les partis politiques et même peut-être pendant la guerre. Où est passé l'argent des nazis? Pourquoi à la libération tant de collaborateurs ont-ils été embauchés par le groupe Forbini comme François Mitterrand? Albert qui voit tout ça veut tout vendre. Faut profiter pour demander de mettre en tutelle sa mère aussi. Il en parle au ministre de l'Intérieur qui en parle au président de la République.
Qui porte mon nom.
Le président de la République lui dit ce serait peut-être une bonne solution pour étouffer l'affaire. Albert dit à sa femme ceci risque de nuire beaucoup à la réputation de nos affaires et les ventes risquent de baisser et même la bourse. Il faut à tout prix que ma mère quitte le conseil d'administration. Jean reçoit encore une fois pour être examinée pour voir son état mental. Elle est furieuse, refuse, écrit qu'on l'a déjà fait et elle a les papiers. Albert va la voir pour la raisonner. Elle le reçoit furieuse dans son salon. Il lui dit, pour le bien de la société, il faut que tu démissionnes, parce que cette histoire risque de beaucoup nous nuire. Elle lui dit, je refuse.
On commence à croire que tu es un gigolo. Il faut que tu arrêtes de voir cette personne. Autrement, on porte plainte contre David Zibouman pour escroquerie qui cherche à ta fortune.
Elle lui dit, je refuse.
Il est furieux et s'en retourne.
Mais le jour où David vient la voir, elle lui dit « Il faut arrêter de venir à cause des ragots. »
Lui fait celui qui est triste, mais il s'en fout. Il a Adrien et la secrétaire sur place. Adrien ne va plus au lycée. Il téléphone à la jeune fille pour le lui dire. Elle est triste et en parle à sa mère. Qui lui dit, il ne faut plus le revoir. Adrien se sent prisonnier. Il ne peut pas sortir. Même pas partir à cause des photographes. Un jour, les lettres ont cessé. Les journalistes, pour changer un peu de sujet, pour éviter que le public ne se lance, parlent de la peste. Toujours la peste. Ils écrivent aussi des articles sur la sécheresse. Malheureusement, certains journaux continuent à faire des articles sur la famille Forbini, mais au lieu que ce soit en première page, c'est à l'intérieur du journal. Et font des recherches. Certains journalistes trouvent, en fouillant dans le dossier de police, après la guerre de 1945, les journaux disent des choses sur le mari de Jeanne. Ce qu'il a fait durant la guerre, sa collaboration, ses engagements pendant la guerre avec François Mitterrand et tant d'autres qui étaient membres d'extrême droite, de de partis très violents, anti-républicains, comme la cagoule, etc., etc. Alors on parle du passé du mari. Et puis on fait des recherches aussi, grâce à des employés, aux impôts auxquels les journalistes paient grassement pour voir les déclarations d'impôts de Jeanne Forvigny. Et on s'aperçoit qu'elle n'a presque pas d'impôts, et ceci malgré tous les milliards qu'elle donne à David Zimmermann. Grâce aux domestiques qui ont été renvoyés, on parle dans les médias qu'elle reçoit beaucoup d'hommes politiques, et elle donne en liquide des sommes très importantes à ces hommes. Cette histoire devient une histoire d'affaires d'État. On parle aussi de ce David Zimmermann, gigolo, qui fréquente des femmes très riches et les abandonne après leur faillite. On parle aussi, dans d'autres médias plus populaires, du drame tragique de la mort du fils de Jeanne et de sa femme dans un terrible accident de voiture où le bébé a été miraculeusement sauvé et que Jeanne a pris avec elle. Et qu'elle aime d'un grand amour. À cause de l'accident, le petit a des séquelles et un enfant fragile, souvent malade, mais qui adore sa grand-mère. Jeanne se bat pour son petit-fils pour qu'il puisse lui succéder. L'enfant devenu un bel adolescent au visage angélique qui se soigne et soigne sa grand-mère, lui étudie très bien et est bon élève. Jeanne l'aime davantage et le protège contre tous. Son seul souci est de s'occuper de son petit-fils. C'est même un devoir après la mort des parents du petit. Cette femme que l'on montre comme un monstre d'égoïsme a en réalité un corps d'or et sensible. Cela se voit comme elle s'occupe de son petit orphelin à la santé fragile. Un journaliste a réussi avec téléobjectif de photographier la grand-mère qui prend dans ses bras son petit-fils qui est dans un fauteuil de jardin et une autre photo où l'on voit le petit prince solitaire, un corps à prendre. En réalité, David, qui connaît un journaliste, a fait cet article et pour les photographies aussi pour redorer Jeanne et faire ressentir le côté humain de cette histoire, surtout pour les lecteurs, enfin surtout les lectrices, et faire centrer l'affaire sur Adrien qui a la chance d'être beau. On veut que les gens puissent oublier cette histoire, que les jeunes filles et les femmes puissent être sensibles à la beauté d'Adrien. Et ça marche. Toutes les jeunes filles découpent la photographie d'Adrien. Elles en sont folles. Jeanne est devenue la grand-mère au corps d'or et la mère au chagrin éternel. Alors les journaux, pendant quelque temps, montrent la chose comme ça, parce que c'est sûrement mieux. Albert est furieux et dit à sa femme, « C'est sûrement un coup fumant de ma mère. » Il va la voir. Mais elle refuse de le recevoir. Le président de la République dit au Premier ministre, « Vous voyez, les choses s'arrangent. Le peuple peut oublier le pourquoi de cette affaire. » Oui, et puis les gens ont trop de choses à s'occuper que d'histoires de riches. Il y a de plus en plus de monde qui sont dans la misère, une misère noire, le chômage qui est de plus en plus grand à cause de la sécheresse et aussi de cette maladie que l'on appelle la peste. Certaines personnes se regroupent pour manifester le matin, mais il y a peu de monde. On manifeste pour la peste, enfin la fin de la peste plutôt, la fin de la misère en règle générale. Malheureusement, la peste continue à faire des morts. Docteur Rambert dit à Elisabeth, c'est sûrement la peste, sûrement qu'elle va bientôt disparaître. Mais ce n'est pas la peste. Comme tous les matins, il va faire sa petite promenade. Les rues sont désertes et en pleine de poussière, toujours cette chaleur étouffante. Il pense à sa vie, se sent là et veut en finir avec la vie. Ce serait facile avec la pharmacie qu'il a à la clinique, mais se dit, je ne peux pas, je me dois à mes malades, même si je ne peux faire grand-chose pour eux, sauf leur venir en aide pour qu'ils puissent mourir paisiblement et dignement.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet et Rebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.